Ravi de vous retrouver, fidèles auditeurs du studio Kalangou, ce jeudi 18 janvier 2024 pour l'édition de 17h. Au micro, je suis Rukai Top Draman. Au sommaire, le comité de paix de Ménassoroa appelle la population à plus de vigilance avec l'accentuation des incursions des groupes armés non étatiques. Les précisions à suivre dans ce journal. Arrivée de nouveau déplacée à Gauteville, ces populations ont fui l'attaque meurtrière survenue dans les villages de Tchalkam et Tchawa. La partie magazine de ce soir s'intéresse à la forêt classée du village de Chabaré, commune rurale de Maïjergui. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal. Les attaques des groupes armés non étatiques deviennent récurrentes ces derniers temps dans la région de Diffa. Pour une amélioration de la situation et prévenir la population, le comité communal de paix de la commune urbaine de Ménassoroa appelle la population à plus de vigilance, notamment celle qui et en zone rurale. Tahir Moussa, membre de ce comité, au micro de Maman Idrissa.
Ce que je dis toujours à la population, c'est de partager des informations au cas où elle constate un comportement suspect et collaborer avec les forces de défense et de sécurité. Surtout la population qui vit en milieu rural, elle doit bien coopérer. Notre souhait est que Dieu ramène ceux qui sont égarés sur la bonne voie et qu'ils réintègrent la société. Qu'on s'assoie ensemble, qu'on discute afin de restaurer la paix. Il n'y a pas plus que la paix. Je demande également à la population de multiplier les prières. Inch'Allah, nous allons sur monter cette situation.
Insécurité toujours suite à l'attaque meurtrière menée par les hommes armés non identifiés dans les deux villages du département de Gauteille, Tchawa et Tchalkam. La ville de Gauteille et d'autres villages environnants ont vu l'arrivée massive de déplacés internes. Comment se passe la prise en charge de ces déplacés? Élément de réponse avec le commandant Ibrahim Sani, préfet de Gauteille, interrogé par Omar Hama.
Effectivement, à voter, on a des déplacés et c'est le grand nombre. Il y a eu une prise en charge humanitaire de l'État qui a amené des vivres destinés à toutes ces familles qui sont impactées. Maintenant, on est en train de les désintéresser et de les identifier parce qu'il faut que le gars qu'on sache là où il est. Rien que hier, à voter, l'assistance humanitaire a été fournie à peu près 91 nouveaux ménages à raison d'un kit composé de 50 kg de riz, 50 kg de mil, 5 litres d'huile, 2,5 kg de sel, 2 nattes, 2 moustiquaires, un panier de 3 pièces. Ça, c'est un kit l'État a décidé d'urgence d'octroyer à se déplacer et qui est en cours de distribution à tous ceux qui se présentent et qu'on vérifie qu'ils sont des déplacés parce qu'ils sont un peu éparpillés et qu'ils sont pour le long de la Silva pour ceux qui sont au mouvement.
La suite de ce journal, un accident de circulation s'est produit hier mardi 17 janvier 2024 aux environs de 19h sur l'axe Niamey-Dosso, plus précisément dans le village de Tombokaina. Un bus d'une compagnie de transport de la place qui venait de Niamey et qui roulait à vive allure a dérapé et a fini sa course après plusieurs tonneaux. L'accident a occasionné la mort de 3 personnes, 8 gravement blessées et plus de 21 personnes blessées légèrement selon une source sécuritaire jointe par notre correspondante de Dosso, Nana Hadiza Hassan. Hors de nos frontières, à la tête d'une importante délégation composée des membres du gouvernement de transition, le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen a entamé depuis le lundi 15 janvier 2024 une visite de travail en Russie, en Turquie et en Iran, rapporte l'agence nigérienne de presse. Avec cette nouvelle offensive diplomatique, Niamey entend ouvrir un nouveau chapitre en matière de coopération à travers la diversification de ses partenaires à Moscou, Ankara et Téhéran. Les échanges vont porter sur les moyens de renforcer et d'intensifier les relations dans divers domaines prioritaires, notamment la défense, le commerce, les mines, l'énergie et les infrastructures. Rencontre mercredi 17 janvier 2024 à Agadez entre les autorités régionales et les organisations humanitaires sur le rappel des dispositions contenues dans le protocole d'accord et la création d'emplois locaux. Sur les 225 ONG censées intervenir dans la région, seuls 92 ont pu déposer leur rapport en 2023. Le non-respect des accords implique des sanctions, explique Ali Hamidou, directeur régional de l'aménagement du territoire et développement local d'Agadez. Il est au micro d'Anissé Karim.
La liste que nous avons, c'est les 225 ONG censées intervenir dans la région d'Agadez. Mais les ONG qui interviennent véritablement, peut-être 5 ou 10 ONG physiquement au niveau de la région. Celles qui déposent le rapport, bah oui, en 2023, là, il y a 92 sur les 225 ONG. Et si vous prenez au niveau des ONG étrangères, il n'y a que 2 qui ont déposé leur rapport sur les 7 ONG qui ont travaillé. Donc la rencontre a consisté quand même à dire, voilà les dispositions qui sont contenues dans le protocole d'accord. Si vous ne le signez pas, voilà les sanctions. En tout cas, qu'on vous infliger. L'autre aspect, c'est qu'une ONG étrangère qui intervient, il y a quand même des solutions qui ont été prises pour que le personnel de cette ONG-là soit constitué au moins à hauteur de 40% des Nigériens. Au niveau des responsabilités, au niveau de gestion de ce projet-là. Maintenant, pour la question d'encadrement, on a dit qu'il faut réussir le nombre au moins 60%. C'est pas normal qu'on vienne dans une région et qu'on constate que c'est des exploités qui sont en train de mettre un nombre de projets pendant que nos gens sont en train de chômer.
Autre aspect de ce journal, le principal facteur qui entrave la bonne marche des communes au Niger est le refus des contribuables à s'acquitter de leurs droits civiques. La commune urbaine de Tessawa fait face également à ce problème. Suivant Lawali Inoussa, maire de la commune urbaine de Tessawa, il est au micro de notre envoyé spécial Habiba Ahmed.
Quand on prend la taxe de voirie ici en ville et la taxe municipale au niveau du village, un exemple très concret, on a un objectif de à peu près de 15 milliards dans la ville de Tessawa et on a pu recouvrer à peine un truc de 200 000. Par contre, au niveau du village, la même taxe avec un objectif de 43 millions, on a pu mobiliser un peu plus de 23 millions. Ce qui fait déjà à peu près un taux de recouvrement de l'ordre de plus de 50%. Ici, de la commune urbaine de Tessawa. Donc, il faudrait que les gens, de la même façon que les gens du village payent l'impôt, il faudrait que les gens de la ville-là payent leur impôt pour qu'on les fasse bien le travail d'assainissement. Donc, c'est pourquoi nous allons revenir sur le budget participatif, qui est quand même un paradigme dans lequel où l'élaboration du budget est faite du début jusqu'à la fin avec la population.
Parlons éducation, la commune rurale de Kéché, située à 17 km de Doganduki, est dotée d'une école pour les sourds depuis octobre 2018. Cette école, qui dispose de 13 élèves, rencontre d'énormes difficultés. Le directeur d'école de sourds, Ilias Guéro, souligne quelques contraintes. Il est au micro de Nana Hadizassan.
Ce qu'on veut vraiment, c'est la formation. Prochainement, les élèves là seront au CE2. Et à partir de CE2, normalement, ils devront être intégrés dans les autres classes. Et malheureusement, aucun enseignant n'a la formation. Ce qui veut dire que, obligatoirement, il faudrait que tout le personnel soit au même niveau d'information. On a fait une mission d'enquête bien avant et on a identifié les malentendants dans les différents villages, les villages qui ne sont pas très loin d'ici, en 2017-2018. C'est reconnu par l'État. C'est le projet ONEN qui a vu l'école, le matériel et premièrement la formation de tout le personnel et aussi l'équipe pédagogique. Aussi une classe en matériel définitif parce qu'on a pris de force une classe dans d'autres communes ou départements. Le projet avait construit des classes. Vraiment, on souhaite avoir cette initiative quand même.
Éducation toujours, le centre d'enseignement technique d'Arlit fonctionne en dents de scie, créé en 2014. Cette école rencontre des difficultés qui ne favorisent pas sa bonne marche. Abdoulaye Hassan, directeur du centre d'enseignement technique d'Arlit, au micro de Ousmane Oumar.
Dans cette école, nous avons des difficultés. Premièrement, nous n'avons pas de clôture. L'école a été créée depuis 2014. Nous sommes hors du village. Derrière nous, il n'y a aucune case. Nous ne sommes pas en sécurité. Le deuxième problème, nous n'avons pas de salle de classe, ni de salle pour les travaux pratiques. À cause de cela, vous allez constater que deux professeurs font cours dans la même salle. C'est un gros problème qui n'a pas lieu d'être. Il y a d'un autre côté l'enseignement général et un autre pour l'enseignement professionnel. Par rapport au métier enseigné, nous avons la filière électricité-bâtiment, il y a aussi la filière mécanique, réparation auto, construction métallique, couture broderie et cuisine restauration.
Comment accueillir cuisine restauration?
Du sport dans ce journal, l'Afrique vibre depuis le 13 janvier au rythme de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Après 6 jours de compétition, la première journée de cette 34e édition de la CAN confirme qu'il n'y a plus de petites équipes dans le football africain, car les grandes nations du football se sont faites surprendre lors de cette première journée. Pour finir, on note également une parfaite application de l'assistance vidéo pour les actions litigieuses, a laissé entendre notre chroniqueur sportif Sari Wada. Et puis la partie magazine de cette édition. La forêt classée de Chabaré subit de pressions humaines et climatiques, aussi appelée Dajin Gomna. Cette aire protégée se situe dans le village de Chabaré, en commune rurale de Meijergui, à 22 km à l'est de Tessawa. Elle nécessite un plan de protection permanente. 112 ans après sa création, les populations riveraines doivent unir leurs efforts autour de Dajin Gomna, dossier de notre envoyé spécial Mama Ada.
Les Chabarois prennent au sérieux les risques et menaces qui pèsent sur leur forêt classée de Chabaré. Premier sur la liste, le chef du village de Chabaré. La soixantaine révolue, chef Haruna Zanoua évoque le passé glorieux de Dajin Gomna.
Cette forêt existe depuis lorsqu'on n'était pas né. Ce sont nos parents qui nous ont expliqué qu'elle est d'une superficie de 900 000 hectares. En ce moment, la forêt était très dense.
Les responsables des eaux et forêts de Tessa se disent conscients de l'urgence de protéger la forêt classée de Chabaré. Il implique les riverains à travers des activités de revoisement et de récupération des sols. Lieutenant Sani Laouli de la direction départementale de l'environnement de Tessawa.
C'était une forêt en pleine dégradation jusqu'en 1997. Donc avec l'arrivée du projet de gestion des ressources naturelles communément appelé PGRN, donc les premières interventions ont commencé au niveau de cette forêt à travers des plantations diverses. La forêt, avec l'arrivée du PAC, est transformé en site biocarbone avec double objectif. La plantation de l'acacia Sénégal en vue de la séquestration du carbone et de la production de la gomme arabique.
À leur naissance, plus de la moitié des riverains ont trouvé la forêt classée de Chabaré. Les enfants de Dajin Gomna lui doivent la vie. Cette forêt occupe une place importante dans leur vie sociale et économique. Ahmed Koukadi appelle Dajin Gomna la terre nourricière de Chabaré.
Grâce à cette forêt, nous avons créé des familles, nous avons construit une école, nous avons construit des magasins ici à Chabaré et un bureau pour des réunions de concertation.
Pour garantir une conservation durable de ce patrimoine, les autorités concernées ont créé un comité local. Mission principale, protéger la forêt classée de Chabaré contre les feux de brousse et l'abattage clandestin des arbres. Écoutons Yaou Moussa, membre du comité.
Les gens pénètrent cette forêt pour couper des arbres qu'ils utilisent dans des activités. Et cela a occasionné la dégradation de cette. Ces derniers temps même, un feu de brousse est survenu, causant d'importants dégâts.
La forêt classée de Chabaré existe depuis le 21 février 1952 par le décret 506/SP. Elle survit aux menaces et aux risques grâce à l'implication des populations riveraines, avec l'appui de l'État et des partenaires techniques et financiers.
C'est ici que prend fin cette édition d'information. Je vous laisse en compagnie de Al-Amin Ouachar pour l'édition en tamashek. Très bonne suite de réception et au revoir. Studio
Kalangu. Suivez les programmes du Studio Kalangu à Dosso sur la radio FRA
92 MHz,
à Birningaouri sur la radio Marhaba
95.1 MHz,
à Dogandouchi sur la radio Dalol
92.8 MHz,
à Maradi sur la radio Garkwa
107 MHz,
à Mayayi sur la radio Anouri
99 MHz,
à Dakoro sur la radio Mouria Dakoro
99 MHz.
Studio Kalangu.